Soif d'autre chose.
Soif d'autre chose.
Une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.
19h sur Radio Présence, bienvenue à l'écoute de Soif d'autre chose. Nous sommes très heureux de vous accueillir en direct. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité, alléluia. C'est votre émission quotidienne hebdomadaire, jeune tous les lundis de 19h, pour vous accompagner dans ce début de soirée, ce début de semaine. Louis-Marie Gabriel, bonjour.
Bonjour Enzo, bonjour à tous.
Alors qu'avons-nous au programme, Louis-Marie?
Alors, un programme bien chargé en ce lundi de Pâques. On a la chance d'avoir avec nous un néophyte qui a été baptisé tout récemment à la Vigile Pascale. Donc on va l'interroger sur ce bel événement qui a été vécu à la paroisse étudiante et qui a été aussi retransmis sur les ondes de Radio Présence.
Exactement.
Enzo était là pour en témoigner aussi. Ça a été bien chargé.
Exactement.
Et tout au long de cette émission aussi, on aura deux entretiens. Un avec le frère Mariano Gualandi qui était à Monaco pour la venue du pape. Et donc
Exactement.
On a pu l'interroger sur ce bel événement et qui nous racontera de lui-même. Et aussi un entretien avec un scout qui nous parlera dans le cadre de son parcours pour devenir raider. Et puis pour ma part, je vous ferai une petite chronique en fin d'émission sur la liturgie de la Semaine Sainte et ses particularités.
Voilà, le programme est lancé, sauf d'autres choses, c'est parti. Et pour commencer cette émission, comme chaque lundi, un peu de musique, c'est Francis Cabrel avec Encore et Encore. On se retrouve juste après avec Tom, néophyte, qui va nous partager son expérience du baptême.
D'abord vos corps qui se séparent, t'es seul dans la lumière des phares. Et t'entends à chaque fois que tu respires, comme un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. L'instant d'après, le vent se déchaîne, les heures s'allongent comme les semaines. Te retrouve seul assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace. Sonne devant. La même nuit que la nuit d'avant, les mêmes endroits, deux fois trop grands. T'avances comme dans des couloirs, tu t'arranges pour éviter les miroirs. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Quelque chose vient de tomber sur les lames de ton plancher. C'est toujours le même film qui passe. T'es toute seule au fond de l'espace. T'as personne devant. Personne. Faudrait que t'arrives à en parler au passé. Faudrait que t'arrives à ne plus penser à ça. Faudrait que tu l'oublies à longueur de journée. Dis-toi qu'il est de l'autre côté du pôle. Dis-toi surtout qu'il ne reviendra pas. Et ça te fait marrer les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Les oiseaux qui s'envolent. Tu comptes les chances qu'il te reste. Un peu de son parfum sur ta veste. Tu avais dû confondre les lumières d'une étoile et d'un réverbère. Mais ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Et ça continue encore et encore, c'est que le début d'accord, d'accord. Y a des couples qui se défont sur les lames de ton plafond. C'est toujours le même film qui passe. Quelque chose vient de tomber sur les...
19h06 sur Soif d'autre chose, nous sommes de retour et nous accueillons en studio avec nous, avec Louis-Marie, Tom. Bonsoir Tom.
Bonsoir.
Alors Tom, tu as été baptisé durant la nuit de Pâques que vous avez pu vivre en direct sur Radio Présence. Est-ce que l'adrénaline est descendue ou est-ce qu'on est encore en plein dedans?
Non, j'ai eu le temps de redescendre quand même. Mais là, on est lundi de Pâques, c'est fait pour ça.
Ouais, un jour pour détendre quand même.
Enchaîner,
pour
surtout récupérer. On avait la messe le lendemain à 11h et puis un repas avec toute la paroisse. Donc on a pas mal enchaîné, pas beaucoup de sommeil. Et après, c'est redescendu et j'ai pu bien digérer ce qui est passé.
Donc Tom, toi, tu as suivi un parcours donc, de catéchuménat de 2 ans. Qu'est-ce qui t'a entraîné à ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à pousser les portes de l'église?
Ça a commencé au collège, j'ai commencé à me poser des questions sur l'origine des choses. Et je suis assez vite, ça a pris plusieurs années. Mais en gros, par la raison, je me suis mis à croire à un créateur ou du moins une source, une cause à notre monde. Et puis donc je me suis renseigné sur les religions qui existaient. C'était assez intellectuel, il n'y a pas de démarche de foi, c'est juste comprendre. Et donc sur l'islam, sur le christianisme. Et celle qui m'a le plus parlé, qui me paraissait réellement plausible, c'était le christianisme. Et en même temps, assez remarquablement, toutes les valeurs humaines prônées par l'Église étaient réellement bonnes. Donc là, j'étais vers la fin de mon collège. Et je crois en Dieu, mais je me dis c'est plausible, mais je ne savais pas si c'était la vérité ou si c'était faux. Donc je prie. C'est vraiment ça. Et c'était un acte de foi que j'ai posé à ce moment-là, mais je ne savais pas. Et donc j'ai prié et puis j'ai commencé à me rapprocher de plus en plus naturellement du Christ. Et donc j'ai demandé le baptême à mes parents vers 15-16 ans. Ils m'ont dit oui, mais j'ai pas trop insisté. Du coup, c'est pas passé grand-chose. Et donc je traîne ça, je prie quasiment tous les jours jusqu'à mes 18 ans et demi où j'ai mon permis. Et je me dis Tom, t'es catho, enfin, t'es chrétien et t'as une voiture en fait. Donc va à la messe et j'y vais. Et à la fin de la messe... je vais voir un prêtre, je me souviens que je voulais le baptême depuis un moment, et il m'a orienté vers la paroisse étudiante, c'était le prêtre de la cathédrale de Toulouse, parce qu'il m'a demandé ce que je faisais dans la vie, je lui ai dit que j'étais étudiant, et donc je me suis retrouvé à la paroisse étudiante, j'ai refait la messe le soir là-bas, et notre ancien curé, l'abbé Verlet, qui m'accueille, il me dit « Génial, t'aimes pas baptiser, t'as fait 2 messes dans la journée, hein, un grand accueil !» Et puis ça a commencé.
D'accord, donc tu as suivi ce parcours-là. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus aussi sur comment ça s'est passé? Comment est-ce que tu as vécu ces années de préparation et ce chemin jusqu'au baptême par rapport aux enseignements qui, je pense, étaient non seulement sur le plan intellectuel et de formation, mais aussi, je pense, sur le plan humain. Qu'est-ce que tu en as retiré là de ces années de formation pour aller jusqu'au baptême?
Premièrement, c'était plus sur l'aspect intellectuel, où en fait, je venais tout seul à l'église, donc je me nourrissais et je ne le partageais pas, parce qu'autour de moi, il n'y avait pas de croyants forcément. Même si j'ai fait des belles rencontres et ça a pris place, je le dirai juste après. Mais c'est quand même déterminé qu'est-ce que c'est la foi, en quoi on croit. Ok, on a un sauveur, mais il faut nous expliquer pourquoi on a besoin d'être sauvé. Et ça s'est bien structuré petit à petit. J'avais quand même fait pas mal d'études, j'avais lu, m'étais renseigné, mais c'était assez flou. Et puis surtout, les contenus qu'on peut trouver sur Internet, on ne sait pas si c'est protestant.
Il y a un peu de tout, ouais. Il faut arriver à se retrouver.
Voilà, donc même avec un bon esprit critique, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et donc ça a bien structuré. C'était dans un aspect de recherche de vérité. Assez surpris que dans une religion comme ça, il y ait beaucoup de philosophie, de science, de théologie. Et en fait, souvent dans les réflexions philosophiques qu'on a, surtout on a beaucoup de dominicains à Toulouse, donc et à la paroisse étudiante aussi, et bien en fait, à chaque fois, les problématiques qu'ils posent, ça ne les arrange vraiment pas. Et au final, c'est quand même l'Église qui gagne, qui a ses explications et la doctrine sacrée au final.
Ouais, je pense que tu as dû trouver aussi pas mal de réponses auprès des dominicains qui sont imprégnés de la pensée de saint Thomas d'Aquin, qui lui a vraiment réussi à aller foi et raison. Donc on voit aussi que dans l'Église, on peut toujours y trouver son compte, et surtout sur le plan intellectuel aussi, et que les deux ne sont pas du tout incompatibles, loin de là. Et donc voilà, sur ce plan de formation, et tu parlais aussi de rencontres, de personnes que tu avais pu rencontrer, parce que forcément, quand on ne vient pas du tout de ce milieu-là et qu'on débarque un peu, on peut se retrouver un peu perdu. Et surtout, ce qui est important, et ça je pense que tu as dû l'entendre aussi beaucoup, c'est de ne pas rester seul. Et est-ce que tu as réussi du coup, avec ces années-là aussi, à créer des rencontres, à tisser des liens avec des gens qui partagent cette foi-là, et surtout qui la vivent au quotidien, et qui sont aussi des exemples peut-être pour toi aujourd'hui?
Mais comme tu dis, saint Thomas d'Aquin, il a lié la foi et la raison. Et en fait, je voyais des gens qui avaient toute leur raison et qui avaient la foi aussi. Donc c'était assez naturel, en fait. Juste, c'est des étudiants, des gens normaux, des
Ouais,
gens du
c'est ça.
monde, enfin dans le monde. Et en fait, ça a permis de le rencontrer par un peu la providence. Il y a beaucoup de gens, je ne me souviens même pas comment je les ai rencontrés. Il y a les fraternités, donc tous ceux qui sont engagés pour la paroisse, avec qui j'ai pu discuter. Ça m'a donné envie d'être et aujourd'hui je le suis.
Donc t'es à la
Mais
frate Saint-Pierre?
oui, à la frate Saint-Pierre.
Très bien.
Et donc en fait, il y avait beaucoup de gens au service qui se donnaient à fond dans quelque chose que je suis en train de découvrir. Et donc ça m'a permis de mieux le découvrir depuis l'intérieur et donc plus pleinement. Et aujourd'hui, j'ai des amitiés avec des gens avec qui on se retrouve à l'église. On va tous à la messe tout seul, mais on y va ensemble. Et donc c'est bien, parce qu'on a une relation avec Dieu direct,
Ça passe aussi par les
mais on le
autres. Ouais, le
partage. témoignage de l'état de vie, peut-être de tes groupes de pères aussi, ont conduit à cette conversion.
Moi personnellement, c'est assez individuel, ma conversion. C'est pas, j'ai pas eu de gens qui ont influé sur moi. Ce n'est Dieu, bien sûr, toujours. Mais après, le fait de le partager et avoir des gens plus exemplaires, par exemple, j'ai commencé à me faire accompagner spirituellement et même juste de fréquenter des religieux et religieuses avant. C'est très vivifiant parce que ces gens-là, ils vivent leur foi de manière radicale, puis ils ont fait un choix très plein. Et donc, ça permet moi de poser le même choix en gardant ma vie, mais on peut pas vivre à moitié avec Dieu. Et donc c'était un très bon guide et en fait c'est vraiment l'Église dans son ensemble avec un grand E.
L'église, donc maintenant tu es pleinement intégré dedans parce que du coup tu as reçu le baptême et pas seulement. Tu avais aussi partie de ceux qui ont reçu la confirmation pendant cette vigile pascale. Donc ça, c'est vraiment l'accomplissement complet de l'initiation chrétienne au sein de l'église. Donc l'avantage aussi, c'est qu'il y a je pense, ce soulagement aussi de savoir que l'église c'est une grande famille et que du coup tu ne seras plus jamais seul. Et ça, je pense que c'est quelque chose que pas mal de néophytes peuvent partager aussi. C'est ce sentiment-là aussi de pas être seul dans sa foi et de savoir aussi qu'on n'est pas seul. Peu importe le cheminement, peu importe la conversion, en fait, on peut toujours trouver des gens qui sont là pour nous. Et donc, tu parlais de l'exemple des religieux et des consacrés qui jouent une place très importante aussi dans les conversions, parce qu'ils sont aussi des vrais repères, comme tu disais, et puis surtout aussi des points solides, en fait, sur lesquels s'appuyer. Quand on débarque en tant que néophyte ou en tant qu'catéchumène, on a parfois un feu qui est très grand et qui a besoin d'être canalisé parfois et d'être aussi entretenu comme il se doit. Et souvent, en fait, les religieux et les accompagnateurs ont ce rôle-là aussi. Et c'est aussi, je pense, le devoir aussi et le rôle qu'ont les parrains et marraines. Je pense que tu peux aussi nous dire quelques mots là-dessus, sur le choix que tu as fait aussi de choisir une marraine ou un parrain.
Mais tout à fait, j'ai une marraine qui est donc une sœur Abigail. Donc c'est une sœur que j'ai rencontrée assez providentiellement. Comme tu disais, on est chez nous, enfin c'est notre maison, l'église. Et en fait, je suis parti un peu voir ce qu'il y avait d'autre que la paroisse étudiante autour de Toulouse. Donc je suis tombé sur sa communauté. Et en fait, c'était génial parce que partout où j'allais, déjà, j'étais chez moi. Et c'était génial, super bien accueilli. Puis voilà, c'est providentiellement, je l'ai rencontré parce qu'il y avait un topo sur Saint-Carlo-à-Côtis, avant qu'il soit canonisé. Et puis voilà, on a parlé, et puis assez naturellement, on arrivait à bien parler du bon Dieu, parce que elle, c'est sa vie, et moi, j'avais beaucoup envie. Et donc, il y a une relation qui s'est créée, autant sur de l'accompagnement spirituel, donc, que sur une certaine amitié à vouloir mon bien dans la foi et que je connaisse Dieu le plus possible.
Merci beaucoup, Tom, de nous avoir accordé ce petit entretien. On va te laisser te reposer, te remettre aussi de ce beau baptême. Merci à toi aussi d'avoir répondu à l'appel du Seigneur et on te souhaite
Bon
bon
courage.
courage et toutes nos prières pour maintenant, toi aussi, tu puisses faire des disciples.
Merci beaucoup pour votre accueil.
On se retrouve dans quelques instants avec l'interview du père Mariano Gualandi, dominicain pour la province de Toulouse, qui est prieur du couvent de Monaco. Mais avant ça, on écoute au matin, la pierre est roulée. Très bonne Pâque à tous.
la terre, un jour nouveau s'est levé. Qui cherchez-vous parmi les morts? Regardez, levez les yeux et croyez.
Le samedi 28 mars, le pape Léon XIV est venu visiter Monaco pour sa visite apostolique. Il fut accueilli chaleureusement par 15 000 fidèles venus de Monaco, du sud de la France et de l'Italie pour le soutenir et l'écouter. Parmi les fidèles, des prêtres et des évêques venus de plusieurs diocèses. Et pour nous aider à décrypter et faire un retour sur ce qui s'est passé, avec nous le frère Marie-Arnaud Wallandi, supérieur de la communauté des Dominicains de Monaco. Bonjour mon père.
Bonjour.
Alors Louis-Marie, on va faire un débrief sur ce qui s'est passé, les moments clés, les moments forts. Que s'est-il passé ?
Bien sûr. Alors déjà, une simple question aussi à vous, mon père. Quand est-ce que vous avez été mis au courant de cette venue du pape à Monaco ?
Disons que ça a été, de façon spontanée, en deux étapes. Il y a eu la première étape où on en a entendu parler en pensant que c'était un peu une blague, pour dire les choses. Comme ça, on est quand même dans un tout petit pays. Personne ne pouvait s'attendre à un tel projet. Et puis ensuite, il y a eu l'annonce officielle. Quatre ou six semaines avant le 28 mars. Donc on a dû savoir ça à peu près aux alentours du 15 février.
Donc très concrètement, mon père, comment est-ce que cette journée-là s'est déroulée ? On sait que le passage a été assez court, hein, il s'agissait seulement d'un passage de quelques heures à peine. Comment est-ce que vous l'avez vécu ? Et surtout, est-ce que vous nous racontez un peu comment ça s'est déroulé du début à la fin, tout ce qui s'est passé pendant ce passage éclair du pape sur la principauté ?
Alors, le passage a été effectivement très rapide, 9h en tout. Le pape est arrivé à l'héliport de Monaco à 9h le matin. Il était reçu par le prince. Ensuite, sa père et le prince sont rendus au palais princier. Il y a eu comme ça quatre séquences. Une première au palais princier, la deuxième séquence à la cathédrale, la troisième à l'église Sainte-Dévote, où le Saint-Père a rencontré les jeunes et les catéchumènes. Et enfin, dans l'après-midi, il y a eu une messe qui a rassemblé une quinzaine de milliers de personnes. Voilà, et le pape est rentré ensuite donc assez rapidement à Rome. C'était une visite donc qu'on peut appeler éclair, mais en jouant un peu sur l'image, et bien comme un éclair et rapide, c'est aussi quelque chose qui met en lumière et qui peut allumer un certain feu. Et on peut dire qu'avec la précision de l'organisation de la visite, et bien quelque chose s'est joué dans la principauté, non seulement pour l'Église, mais pour le pays tout entier, pour tous les habitants monégasques et résidents du pays, mais aussi, je pense, au-delà de la frontière très petite de Monaco, le message délivré par le Saint-Père a quelque chose de passionnant. Parler dans un tout petit pays à l'univers entier, d'une certaine manière, vous voyez, c'est Monaco, depuis Monaco, parler pour le monde, c'était un pari, et on a l'impression que le Saint-Père, a réussi ce pari.
Oui, Monaco et le Vatican, hein, qui sont, on va dire, quand même des petits états, mais un peu symboliques et aussi presque pareil, hein, en tant sur la superficie, mais aussi par rapport à la religion catholique, hein, qui est très présente, hein. Monaco est l'un des seuls états réellement catholiques qu'il a vraiment inscrit dans sa constitution. Justement, en tant que pape, c'est quand même un certain marqueur et une importance aussi de rendre visite à ces pays qu'on oublie peu souvent, non ?
Oui, sans doute. Je dois dire encore que la visite est tellement inattendue que qu'on s'est laissé surprendre. Alors, on s'est laissé surprendre tant par la préparation, qui a demandé beaucoup d'esprit d'à propos de la part des organisateurs, hein, que ce soit le diocèse, la principauté, les services de sécurité, le gouvernement, le protocole, beaucoup de choses ont dû être mises en place. Donc, on n'a pas vraiment eu le temps de se poser des questions et d'attendre des réponses, quoi. Donc, effectivement, Monaco, c'est petit. Le Vatican aussi, le Monaco, c'est un pays où la religion catholique et romaine est inscrite dans la Constitution. Je dirais tout ça, on le savait, mais on le savait un peu comme quelque chose de je ne dirais pas d'habituel, mais comme quelque chose, voilà, comme un fondement, un peu comme une évidence. Et là, le pape est venu rappeler un peu les exigences qui sont celles d'un pays catholique, singulier, petit, et avec des caractéristiques qui en font un lieu unique. On présente souvent, à raison, Monaco comme un laboratoire, dans le sens son aspect multiculturel. À Monaco, il y a plus d'une centaine de nationalités représentées. On y parle au moins une vingtaine de langues. Bon, bien sûr, il y a le français, l'italien, l'anglais, qui sont les langues principales, mais aussi il y a beaucoup d'autres réalités. Monaco, c'est un lieu d'échange économique, on le sait, culturel, on le sait moins, mais c'est énorme. Donc voilà, c'est un peu un laboratoire qui permet aussi au souverain pontife de dire des choses sur cette espèce de concentré d'humanité. Alors certes, à bien des égards, comme on le dit, privilégié, au moins sur un plan économique, mais qui n'en demeure pas moins, un lieu où vivent des vraies personnes, chrétiennes ou non, avec un État qui a une responsabilité chrétienne. Et puis, avec une population qui est beaucoup plus variée aussi sur un plan socio-économique qu'on ne peut l'imaginer. C'est-à-dire que Monaco correspond un peu aux clichés que l'on peut en avoir, mais dépasse largement les idées toutes faites que l'on peut en avoir, même si encore une fois, elles sont elles sont pour une part très vraies. Il y a beaucoup d'autres réalités et des réalités passionnantes dont il faut tenir compte ici à Monaco.
Justement, le pape Léon, qui s'inscrit aussi dans la démarche de son prédécesseur, le pape François, d'un pape tourné aussi vers les plus pauvres, il y avait quand même un certain contraste aussi entre ce pape qui parle beaucoup des pauvres et aussi quelquefois le faste qu'on peut avoir à Monaco.
Alors, le faste, oui, néanmoins, si on regarde les images, la visite a été, heureusement d'ailleurs, assez sobre. Il n'y a pas eu d'éclat particulier. C'est bien sûr que la ville était ornée. Mais si on regarde les images, bien sûr, la messe était très belle et tant mieux. Les différents lieux de rencontre étaient jolis, mais je pas l'impression qu'on ait beaucoup joué sur le décorum. Au contraire, même, j'ai l'impression que on avait insisté sur ce point, à la fois les organisateurs du côté du Vatican que ceux du côté de la principauté avaient insisté sur le fait que cette rencontre se faisait quand même juste avant la Semaine Sainte, donc un samedi de carême. Donc il ne s'agissait pas non plus, de faire des choses qui ne conviendraient pas à ce moment liturgique particulier qui restait premier dans le déroulé des événements, des choses.
Et tout à fait, c'est très bon de rappeler aussi que tout ce qui entoure le pape n'est pas seulement sur le côté diplomatique, mais aussi que le pape est avant tout un homme de foi. Et donc, en parlant de ce passage-là, donc évidemment, vous avez parlé des moments qu'il a vécu avec le prince, mais vous avez aussi parlé du temps qu'il a passé à la cathédrale. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé? Parce que c'est un temps qui était aussi riche liturgiquement. Il me semble qu'un office a été chanté par vous, d'ailleurs. Et est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots un peu sur le passage à la cathédrale du pape?
Alors après s'être rendu au palais où le souverain s'est adressé au monégasque, et ensuite le souverain pontife s'est adressé à son tour au monégasque en répondant un peu à la salutation du prince Albert, eh bien le prince et le pape se sont rendus à la cathédrale où le peuple chrétien, je dirais, attendait le Saint-Père. Quand je dis le peuple chrétien, c'est qu'à la cathédrale, les organisateurs avaient voulu que ce soit vraiment un moment adressé spécifiquement aux chrétiens présents à Monaco. Donc il y avait les représentants des différentes associations caritatives, le clergé, les religieuses, toutes les personnes qui travaillent pour le diocèse, qui travaillent dans les paroisses, quelques jeunes aussi, mais surtout des agents, des acteurs de la vie diocésaine, en accentuant les choses sur la vie caritative. Il faut savoir qu'à Monaco, il y a, je cite de mémoire, mais facilement plus de 50 associations caritatives, les plus célèbres étant Saint-Vincent de Paul, mais il y a aussi, il y a des ordres, l'Ordre de Malte, l'Ordre du Saint-Sépulcre, etc., qui ont aussi une influence importante que l'on voit aussi dans les paroisses et sur le terrain, pour venir en aide aux personnes qui en ont besoin, que ce soit sur place en principauté ou aussi à l'extérieur en France ou après très loin. Donc ces personnes étaient rassemblées dans la cathédrale. Le programme était la célébration de l'office du milieu du jour. Donc le Saint-Père est arrivé, Monseigneur David l'a salué. Ensuite, l'office a été chanté, je dirais de façon simple, à la fois très belle. Enfin, je pense pas que solennité et simplicité soient nécessairement des mots qu'on puisse opposer. L'office a été chanté et juste après le capitule, donc la petite lecture que l'on fait à chaque office, le Saint-Père a fait une brève homélie. Qui a rappelé des éléments fondamentaux de la vie chrétienne dans le contexte, encore une fois, particulier de Monaco, donc en rappelant que pour les chrétiens, le Christ doit être parfaitement au centre de notre mission et que le Christ Et comme il a dit, le défenseur, l'avocat de l'homme, et que l'Église est là au nom du Christ pour défendre chaque personne en refusant parfois obstinément de s'adapter aux réalités superficielles du monde, défendre la dignité humaine, la vie depuis la conception à la mort naturelle, voilà l'Église comme porte-voix, porte-parole du Christ, avocat de l'humanité, avocat des hommes, en les considérant dans toutes leurs dimensions, bien évidemment, puisque le Christ est venu pour sauver les âmes, pour nous conduire jusqu'au ciel, mais nous conduire au ciel aussi, justement, en nous invitant, même en nous commandant de respecter l'intégralité de ce que nous sommes. Et ça a été un message sur lequel le pape a beaucoup, beaucoup, beaucoup insisté. Ensuite, il a insisté sur le fait que cette responsabilité d'être le porte-parole du Christ, eh bien, s'adressait à tous, pas seulement au clergé, mais aussi aux laïcs, aux familles, aux éducateurs, voilà, en prenant soin, eh bien, de ne pas tomber dans la confusion des genres, mais en étant toujours fidèle à la vérité de l'Évangile. Voilà, pour simplifier un peu les choses. Et ensuite, il y a eu l'office est terminé, le Saint-Père est sorti pour se rendre ensuite à l'église Sainte-Dévote pour une rencontre avec les jeunes et les catéchumènes, l'église Sainte-Dévote étant le sanctuaire, un peu l'église mère de Monaco. C'est une toute petite église devant le port Hercule, là où sont conservées les reliques de Sainte-Dévote,
la sainte patronne de Monaco.
Exactement.
Merci beaucoup, Père Marie-Arnaud Golandi, d'être passé avec nous sur Radio Présence pour ce débrief de la visite apostolique du Saint-Père à Léon XIV à Monaco.
Présence.
Dans son quartier du vieux Québec, les rues ont l'air d'avoir l'accent. Et l'an 2000 voisine avec les maisons grises du vieux temps. Mais l'hiver vient d'éclater, le Saint-Laurent est prisonnier d'un décembre qui va bien durer 6 mois. Quand les jours ressemblent aux nuits, sans éclaircie à espérer, qui peut croire que l'été nous reviendra? Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire. Moi, j'avais le soleil nuit et jour dans les yeux de l'amour. Dans son quartier du vieux Québec, quand les toits deviennent verts, quand les enfants ont les pieds secs, on tourne le dos à l'hiver. C'est la fête du printemps, le grand retour du Saint-Laurent. On dirait que les gens sortent de la terre. Mais Émilie n'est plus à moi, j'ai froid pour la première fois. Je n'ai plus ni sa chaleur, ni sa lumière. Moi, j'avais le soleil jour et nuit dans les yeux d'Émilie. Je réchauffais ma vie à son sourire, moi. We'll be right back.
retour sur Soif d'autre chose. On accueille avec nous par téléphone Éloi de Saint-Cernin. Éloi qui est scout d'Europe, voilà, au groupe Première Lecture, qui est chef de patrouille. Bonjour Éloi.
Bonjour, bonjour.
Alors Éloi, tu nous as contacté il y a quelques mois pour venir témoigner de ton engagement scout ici au sein de Radio Présence et dans l'émission Soif d'autre chose. Mais pourquoi nous as-tu contacté? Tu nous as expliqué que c'était pour passer une étape de ta progression.
Oui, c'est ça. Alors si je vous ai appelé exactement, c'était pour dans le cadre de mon objectif Raider, scout d'Europe, c'est apprendre à améliorer son niveau et à développer ses compétences au maximum dans le cadre du scout. Donc ça va être d'oser communiquer, ça va être de savoir prier et exploiter toutes ses capacités dans le cadre du scoutisme.
D'accord, donc tu as fait le choix donc pour parler du scoutisme ici sur l'antenne de Radio Présence. Toi, ça fait depuis quand que tu es engagé dans ce mouvement?
Alors, je suis scout depuis que j'ai 7 ans, donc aujourd'hui, ça fait une dizaine d'années. J'ai commencé en tant que louveteau, du coup, de 7 ans à 12 ans. Puis j'ai rejoint les scouts à Montauban, où j'ai fait 4 années. Et maintenant, je suis à Lectour depuis cette année et je suis chef de patrouille cette année.
Donc concrètement, cette progression, ça comporte 5 défis. Quels sont-ils?
Alors, les défis. Alors, en tout premier défi, il y a test communication. Du coup, c'est oser parler du scoutisme extérieurement, que ce soit dans une paroisse ou avec des personnes qui ne connaissent pas le scoutisme. C'est présenter le scoutisme et décasser le scoutisme et essayer de charmer les personnes pour qu'ils reviennent au mouvement. Après, il y a le test intervention. C'est former pour apprendre à assister son prochain en toutes circonstances. Donc, c'est avoir son PSC1 ou avoir des interventions avec des pompiers pour essayer de nous apprendre à être toujours présent en cas de danger. Après, il y a test mission. C'est plutôt un défi avec la foi. Donc, moi, par exemple, le mien, ça va être organiser une veille d'adoration. C'est avec l'aide de prêtres et d'un expert spirituel d'oser parler, avoir un entretien assez régulièrement avec un prêtre et pouvoir parler de sa foi librement. Ensuite, il y a un test sport. C'est se dépasser au maximum pour avoir des très bonnes conditions physiques et toujours servir de son mieux. Donc, il y a deux types de tests. Il y a test endurance, qui est sur une longue distance. Ça peut être une randonnée ou un très long raid. Et il y a test cran, qui est une activité comme un marathon, etc. Et enfin, il y a le test raid, le tout dernier, le plus compliqué. C'est une marche de 3 jours, dont on doit faire 30 km chaque jour, avec un tiers de nuit.
Très bien. Et donc, toi, actuellement, là, dans tous ces défis, où est-ce que tu en es?
Alors, actuellement, j'ai réalisé mon test intervention, mon test mission, qui aura lieu la semaine prochaine. J'organise une veillée d'oration dans le cadre de mon lycée, où chacun vient en uniforme. Et j'ai également fait mon test intervention. C'est durant mes grandes vacances, j'ai fait une préparation militaire dans laquelle j'ai été formé au SC1, premier secours au combat. Et j'ai pu former du coup mes jeunes scouts et leur apprendre des techniques à faire en cas de danger.
Très bien, donc là, si je comprends bien, tu nous l'as dit au préalable, ce lundi, tu vas pouvoir donc aussi réaliser, donc en plus de ton témoignage ici à Radio Présence, une nuit d'adoration, c'est bien ça?
C'est ça, oui, dans le cadre de Pâques.
Une nuit que tu feras donc où, à Lectour?
Oui, j'organise dans une petite église proche de notre internat, où chacun du lycée est invité avec sa famille ou des amis à venir en uniforme si possible. Et c'est une adoration, oui, avec 3 pères de la communauté de Saint-Martin, où nous pouvons prier avec des chants scouts et voilà.
Et donc concrètement, pour toi, tu nous as dit que c'était une distinction en plus, un objectif personnel. Pourquoi avoir entamé cette démarche, justement?
Alors si j'ai voulu être, si j'essaie d'être scout raider, c'est pour apprendre à me dépasser et à être dans une zone, pour sortir de ma zone de confort. Comme aujourd'hui, moi qui suis plutôt une personne réservée et timide, bah, c'est oser parler. Et c'est aussi vivre des épreuves difficiles, avec des tests hyper très exigeants, et qui demande de la motivation et beaucoup de persévérance.
Okay, donc là, on parlait du coup du côté mission et donc du défi qu'il y a à la fois. Et plus généralement, est-ce que dans ton expérience scout, il y a du coup une place vraiment centrale de la foi? Et si oui, est-ce que tu aurais avec nous un moment particulier dans toute ta vie de scout à nous partager sur le plan spirituel qui t'a particulièrement marqué sur le plan de la foi?
Bah, du coup, oui, dans le scoutisme, il y a beaucoup de côté, oui, plutôt catho dans la prière. Et les moments qui m'ont le plus plu, je pense, c'était les veillées scouts. Ou alors voir les troupes, les patrouilles au pèlerinage de Chartres marcher tous ensemble, soudés. C'est vraiment des moments qui m'ont énormément plu en tant que scout. Et j'aime énormément aussi les marches scouts. Quand on marche pour aller à la messe un dimanche matin en troupe, c'est chanter, avoir tous ces sentiments d'entrain pour aller à la messe. Enfin, je trouve ça vraiment très sympa dans une troupe scout. Oui.
Donc là, actuellement, tu as 17 ans, tu es chef de patrouille, c'est bien ça. Oui. Concrètement, après être passé chef de patrouille, comment se déroule aussi la vie d'un scout? Peut-il s'engager après? Peut-il après transmettre, enseigner?
Alors oui, après les scouts, une fois qu'on a été CP, on peut rejoindre le clan. C'est des week-ends une fois par mois et c'est pour vraiment apprendre à rendre service aux personnes et à se reconcentrer sur soi-même. Et alors on peut aussi être en même temps chef scout. Donc c'est oui, être chef louveteau ou chef scout, et c'est bah, du coup aider les plus jeunes et leur apprendre et leur transmettre tout ce qu'on a, toutes les compétences qu'on a acquises avant, et de les transmettre aux plus jeunes.
Pour toi, être aider, justement, c'est quelque chose d'essentiel après pour transmettre?
Bah, pour moi, oui. Je trouve que Raider, c'est une vraie distinction. Ça nous apprend énormément de choses. Et oui, je pense que Raider, c'est très important et que chaque personne devrait essayer de le tenter au moins dans sa vie. Parce que, mine de rien, il y a quand même très peu de personnes qui le tentent. On est une trentaine par an, je pense, à tenter Raider et à l'avoir. Et je pense que oui, Raider, c'est hyper important et ça nous apporte beaucoup de compétences.
De la confiance en soi, mais aussi un gain spirituel?
Oui, complètement.
Très bien. Et si tu avais, par exemple, quelque chose à dire, justement, pour motiver des jeunes et traders, qu'est-ce que ça serait?
Bah, c'est renseignez-vous, essayez de rejoindre une troupe et parlez avec vos chefs pour essayer, oui, de tenter l'expérience Raider, parce que ça vous apporte énormément de choses. Et le scoutisme, c'est une vraie école de vie. Ça vous apprend des choses qui vous seront utiles toute votre vie. Ça vous donne des compétences et des valeurs comme le respect, la responsabilité. Et ça nous permet de pouvoir s'organiser, de se débrouiller, de pouvoir diriger un groupe. Donc, être raider, c'est très important.
Merci beaucoup, Eloi, d'être venu témoigner de ce beau parcours scout et de ces étapes qui t'attendent dans ta progression. On prie beaucoup pour toi et nos auditeurs prient pour toi, d'ailleurs, aujourd'hui et ce soir, pour ta veillée d'adoration. À très bientôt.
Merci beaucoup, vous aussi, au revoir.
Présence.
À brûler nos ailes, se retrouver comme les hirondelles. On va s'aimer tellement tu es belle. On va jeter les clés de la maison. On va rêver à d'autres saisons. On va quitter ces murs de prison. On va s'aimer sur une étoile ou sur un oreiller. Au fond d'un train ou dans un vieux grenier.
19h49 sur Soif d'autre chose, et comme chaque lundi, Louis-Marie, tu nous fais notre chronique hebdomadaire, et cette semaine tu nous parles d'un retour sur la Semaine Sainte.
Et oui, évidemment, comment ne pas passer à côté de cette semaine, la grande semaine de l'année liturgique. Donc cette semaine qui a été très riche, hein, on l'a bien vu, et on l'a vu surtout à travers la liturgie qui en ce temps est si particulière, et la liturgie ne ressemble à aucune autre pendant cette Semaine Sainte. Et donc maintenant que cette semaine est passée, elle est derrière nous, on peut en garder encore l'écho, une célébration, un chant, un silence ou un geste qui nous a marqué pendant ces célébrations liturgiques. Et il vaut la peine, même quelques jours après, de revenir sur ce que nous avons vécu pour en saisir toute la profondeur. Tout a commencé donc dimanche, avec le dimanche des rameaux, marqué par ce contraste saisissant entre l'enthousiasme de la foule acclamant Jésus et la gravité du récit de sa passion. Nous avons porté des rameaux, chanté la joie d'un roi humble, puis entendu. Parfois avec intensité, on a entendu le récit de la souffrance et de la passion de notre Seigneur. Et cette tension nous introduisait déjà au grand mystère pascal, la gloire passe par la croix. Le jeudi saint, nous avons été invités à entrer dans l'intimité du dernier repas du Christ avec ses disciples. L'institution de l'Eucharistie, le geste du lavement des pieds, qui a d'ailleurs été célébré aussi par notre pape Léon XIV, qui a remis une tradition qui avait été un peu oubliée, qui est celle de laver les pieds de 12 prêtres lors de la vigile pascale, qui est un signe évidemment d'humilité, et qui nous rappelle aussi qu'en ce jour, a été institué le sacerdoce, donc c'était aussi la fête de tous les prêtres. Et avec tout ça, un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et ces paroles ont donné à cette célébration une tonalité profondément fraternelle. Puis dans le silence, nous avons accompagné le Seigneur dans sa prière au Jardin des Oliviers, à travers le temps de l'adoration eucharistique et aussi de la procession du Saint-Sacrement jusqu'au reposoir. Donc le tabernacle a été vidé, qui nous laisse déjà entrevoir l'absence du Christ, qui a été vécu notamment avec le lendemain, au Vendredi Saint, où nous avons vécu une liturgie qui était complètement dépouillée, marquée par le silence et la sobriété. Ce jour-là, pas de messe à proprement parler, dans le sens où il n'y a pas eu de célébration eucharistique, bien que les fidèles aient pu communier. Et la liturgie nous rappelle que ce jour-là, il y avait une grande prière où la parole de Dieu, la vénération de la croix et la communion nous ont rassemblés dans une attitude de recueillement. La croix, lentement dévoilée par trois fois, nous a rappelé jusqu'où va la mort du Christ. Le samedi saint, quant à lui, a été une journée d'attente, une journée discrète, presque vide, comme suspendue. Et puis dans la nuit, tout a changé. La vigile pascale nous a fait passer des ténèbres à la lumière, le feu nouveau, le cierge pascal, les lectures retraçant l'histoire de notre salut, l'eau du baptême et enfin le chant de l'Alléluia nous ont conduits vers la joie de la résurrection. Cette nuit-là, nous avons pas seulement commémoré un événement passé, mais nous avons été invités à en vivre la réalité aujourd'hui. Ce qui frappe lorsqu'on repense à cette semaine, c'est la richesse des signes, des paroles, et tout nous parle, les gestes, les silences, les processions, les lectures, et surtout, tout nous implique. Nous ne sommes pas restés spectateurs, mais nous avons été appelés à rentrer, chacun personnellement, dans ce mystère. Maintenant que ces célébrations sont passées, une question demeure. Qu'en reste-t-il dans nos vies ? La liturgie ne s'arrête pas à l'église, elle est appelée à porter du fruit dans notre quotidien. La lumière de Pâques que nous avons accueillie dans la nuit est faite pour éclairer nos choix, nos relations, nos engagements et toute notre vie. Peut-être avons-nous été touchés par un moment particulier, un chant, une parole, un silence ou un geste. Gardons ça précieusement. C'est souvent ainsi que Dieu continue de nous parler bien après ces célébrations. La liturgie a en effet le rôle de nous rappeler la présence du Christ, de la rendre toujours plus actuelle dans nos vies, et d'en être du coup la source aussi, parce que c'est là qu'on vient puiser, là où tout le secret se dévoile pour nous, l'Eucharistie évidemment, et surtout cette célébration qui nous fait entrer dans ce mystère pascal, qui va se prolonger encore, parce qu'il y a l'octave de Pâques que nous vivons en ce moment, pendant ces 8 jours, et puis les festivités vont continuer encore pendant une quarantaine de jours jusqu'à l'Ascension. Et bien encore après ça, 10 jours après, viendra la Pentecôte qui sera le déploiement complet de toute cette joie qui a commencé hier soir, enfin samedi soir. Et donc voilà, chers auditeurs, maintenant que cette Semaine Sainte est passée, le mystère qu'elle nous a fait contempler demeure. Le Christ est ressuscité et cette parole continue de transformer le monde et nos vies si nous lui ouvrons la porte. Très belle continuation de la joie pascale à tous et restez dans cette joie jusqu'à ce que... Christ revienne.
Merci beaucoup Louis-Marie. On se retrouve juste après dans cette autre chose. Tout de suite, l'Alléluia de Saint-Michel.
Alléluia, 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 Alléluia.
I said, young man, 'cause you're in a new town, there's no need to be unhappy, young man. There's a place you can go, I said, young man, when you're short on your dough, you can stay there, and I'm sure you will find many ways to have a good time. Fun to stay at the
YMCA.
Fun to stay at the
YMCA.
They have everything for your men to enjoy. You can hang out with all the boys. It's fun to stay at the
YMCA.
Fun to stay at the
YMCA.
I said I was down and out with the blues. I felt no man cared if I were alive. I felt
the whole world was so jive.
That's when someone came up to me and said, young man, take a walk up the street. There's a place there called the YMCA. They can start you back on your way.
YMCA.
It's fun to stay at the
YMCA.
Young man, there's no need to feel down. Young man, pick yourself off the ground.
YMCA.
And just go to the
YMCA. YMCA sur Radio Présence, c'est déjà la fin de Soif d'autre chose.
Oui.
On se retrouve la semaine prochaine comme chaque lundi en direct pour vous accompagner dans ce début de soirée tous les lundis sur Radio Présence. Louis-Marie.
Oui, c'est... on sera toujours dans cette octave de Pâques, donc on va pouvoir prolonger cette joie qui va continuer de nous porter encore jusqu'à l'Ascension, la Pentecôte et bien plus loin encore, jusqu'au bout du monde.
Jusqu'au bout du monde. Allez, on se retrouve la semaine prochaine sur Soif d'autre chose. Tout de suite, des clés pour vivre avec Nathalie Cardon, les rues de Toulouse. Très bonne soirée à l'écoute de votre radio chrétienne préférée, Ressuscito. Alléluia.
C'était Soif d'autre chose, une émission présentée par les jeunes de la paroisse étudiante de Toulouse.